LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
J'étais en mission en Guinée avec des collègues du Muséum d'histoire naturelle de Paris pour travailler sur des chauves-souris locales. Donc, on capture les chauves-souris. Et au moment de la dissection, on va chercher les matières fécales des chauves-souris. Quand c'est des chauves-souris frugivores, ça ressemble à des fruits qui ont été marinés. Par exemple, une chauve-souris frugivore qui va manger des bananes, ben, ça devient comme des bananes marinées, comme si on fait du rhum arrangé en mettant des bananes dedans. Donc, en marinant, il y a aussi de l'alcool qui est produit. Donc, je ne savais pas qu'il y a des gens qui mangeaient cela. Moi, j'ai pas mangé les excréments de chauve-souris. J'ai mangé la chauve-souris entière. Et s'il est vrai que je mange donc je suis, ben, l'idée, c'était de devenir Batman en mangeant la chauve-souris.
LSD, microbiote, tous en sel. Une série documentaire d'Élodie Maillot et Véronique Samuilov.
Moi, je fais des selfies de mes bactéries qui montrent très bien ici, dans le cadre de cette image, qu'il y a un surplus bactérien qui a été amené à mon microbiome par l'ingestion de cette chauve-souris. Donc, c'est le lendemain matin, lorsque j'ai récolté mon microbiome intestinal, qu'il y a des bactéries que je n'avais pas avant qui sont apparues. Il y a deux couleurs. Les rouges sont des bactéries qui ont été récoltées sur moi. Les jaunes sont des bactéries qui ont été récoltées sur la chauve-souris. Et donc, c'est ce que j'ai retrouvé dans mes matières fécales après avoir ingéré Batman. Les points jaunes ne sont pas présents dans mon identité avant de manger une chauve-souris. Donc, c'est comme si j'avais une identité augmentée par la chauve-souris que j'ai consommée.
Épisode 3, alimentation et fermentation générale.
Donc, il y a eu intégration du microbiome de la chauve-souris. Je mange donc je suis dans mon propre microbiome. Mais c'est vrai pour tout ce qu'on consomme. Naturellement, l'exercice que je fais ici est un exercice artistique d'essayer de montrer que notre identité est constamment en train de changer en fonction de ce que l'on mange. Donc, l'objectif n'est pas scientifique a priori, mais qui questionne la science, qui questionne notre identité à plusieurs niveaux.
Est-ce que l'on devient ce que l'on mange? Et que raconteraient alors les bactéries de nos féquesses?
Nom féminin pluriel du latin féquesse. Excrément, matière fécale, résidu de la digestion. Lit qui se dépose au fond d'un liquide trouble.
Que disent de nous les micro-organismes qui se retrouvent dans nos matières fécales? Ceux qu'on appelle le microbiote. Est-ce qu'ils racontent nos repas, nos vies, nos trajectoires intimes, nos voyages ou nos rencontres? Est-ce qu'il y aurait une histoire de nos féquesses? Donc une histoire de l'ADN des bactéries qui peuplent nos excréments. Comment ce que l'on mange impacte nos bactéries et notre microbiote, ces 2 kilos de micro-organismes qui habitent nos entrailles et dont les cellules sont 10 fois plus nombreuses en nous que nos propres cellules humaines. Des micro-organismes qui sont littéralement indispensables à notre survie.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous venez me voir aujourd'hui? Quelle est votre problématique?
Ben aujourd'hui, je viens vous voir pour savoir si je peux améliorer ma santé, si je peux avoir une action sur mon microbiote, si je peux aller mieux.
D'accord. Donc, ben, écoute, on va un peu dérouler pour savoir exactement, concrètement, quand on parle de microbiote, qu'est-ce que vous avez, vous souffrez?
À force de me regarder le ventre et le nombril, et de surfer sur Internet sur les milliers de pages dédiées au microbiote, parce que, comme plus de 30% des Français, je souffre régulièrement de maux de ventre, j'ai découvert une nutrithérapeute spécialiste du microbiote. Elle s'appelle Kroutoum Konaté. Alors, j'ai eu envie d'aller la voir.
Mais en fait, je suis venue vous voir parce que j'ai eu un parasite.
D'accord. C'est un parasite, c'est tropical. On vous l'a déjà identifié. Vous avez fait des analyses?
Oui, j'ai fait des analyses. Des analyses de sel.
De sel. Donc ça, ça a été identifié. Et quand vous avez vu le médecin, il vous a donné un antiparasitaire?
Un antibiotique.
Ok. Et il y a des ballonnements? Il y a des flatulences?
Mais des douleurs, des douleurs.
Donc il y a des douleurs, ok. Et il y a des pets? Ouais, bah, chez moi, en général, on parle caca, etc. C'est normal, quoi, donc il n'y a pas de souci. C'est normal d'avoir des pets.
Oui, il en faut combien?
Bon, je sais pas, après ça dépend un peu des personnes, mais... pas si c'est 2-3 fois dans la journée, c'est pas un problème. Maintenant, si c'est beaucoup plus fréquent, Donc il y a des maux de ventre, et ça c'est du début de la journée, peut-être tout le long de la journée, vous avez remarqué en mangeant.
Pendant que je travaillais sur cette série consacrée au microbiote, je savais que j'allais plonger dans ce que nous avons donc de plus intime. C'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes que nous hébergeons. Toutes ces bactéries, ces microbes, ces parasites et autres champignons en nous et sur nous. Cette population étrangère qui fabrique pourtant pour nous tellement de molécules indispensables à notre survie. Des vitamines, des acides gras à chaîne courte et autres butyrates ou sérotonines à partir de notre alimentation. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment mal au ventre. Très mal au ventre. En fait, mon estomac faisait des bruits étranges. Et puis, tout s'est complètement détraqué.
Allô ?
Oui, docteur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, c'est Élodie Maillot. Vous m'entendez ?
Oui.
J'ai reçu les résultats des analyses concernant les parasites.
Et alors ?
Et alors, j'ai un Dientamoeba fragilis. Donc, et c'est ça qui serait à l'origine peut-être des troubles hépatiques.
Oui.
Mais ça veut dire que ça, c'est un truc dont on se débarrasse pas, ou c'est comment?
Non, là, on va vous en débarrasser.
Hein? Ah oui. Et ben, alors, est-ce que vous pourriez m'envoyer une ordonnance?
Ok, j'envoie ça.
Merci beaucoup, docteur, merci.
Au revoir.
En fait, j'hébergeais des Dientamoeba fragilis, une colonie d'amibes pas si fragile que ça. Ils avaient pris le dessus sur les autres invisibles de mon tube digestif, les bonnes bactéries. Résultat, je pouvais plus manger. Je me suis alors demandé ce que j'avais pu avaler dans ma vie pour laisser entrer ce parasite au nom latin. Ces millions d'organismes de quelques microns de diamètre aux formes arrondies, Dientamoeba fragilis. Est-ce que mes repas, pris accroupis sur les bords des routes, en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, à Bangalore ou à la cantine, avaient laissé une trace dans mes entrailles ? Ou bien était-ce ce que je mange aujourd'hui qui les réveillait ?
Cette enquête, parce que moi j'ai l'impression que c'est parce que je me suis intéressée au microbiote que j'ai eu des parasites.
Ah !
Je me suis dit, plus je m'intéresse à ce qui est invisible en moi,
plus il s'exprime.
Ouais, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je trouve ça intéressant parce que est-ce que le fait de s'y intéresser, c'était aussi avec un stress
oui.
Ou pas ? Parce que c'est voilà, j'aime bien expliquer que j'ai une couche qui est ce sont mes cellules, elles sont bien serrées, après j'ai une couche de mucus et après j'ai une couche de mon microbiote, OK ? À l'intérieur, si je suis dans les tuyaux, c'était les nutriments, ça traverse la paroi, ça rentre dans mon sang, et au niveau, surtout si on est au niveau de l'intestin grêle, j'ai mes cellules du système immunitaire, je vous ai dit, qui sont là pour aller checker ce qui va rentrer. Si vous êtes trop stressé et que ça commence à impacter même la qualité de votre barrière intestinale, je simplifie encore un peu, mais ça peut aussi, du coup, jouer sur la composition de votre microbiote, et s'il y a des bactéries qui étaient un peu pathogènes, mais qui étaient un peu contenues, mais qui prolifèrent un peu, et que l'intestin il est un peu plus perméable, votre système immunitaire aussi, il peut être malmené.
Alors, on se récolte quelques vitamines. Et que ferait-il si nous n'étions pas là pour fabriquer ces vitamines qu'on ne trouve pas dans les aliments ? Dites-le-moi !
Et pourquoi ils sont si nombreux, maître ?
Ah, c'est que la digestion se termine là.
En écoutant Croton Connaté parler des luttes intestines dans mon microbiote, entre les bons et les méchants micro-organismes, j'ai pensé à la première fois que j'avais voulu imaginer plonger dans mes entrailles. C'était quand j'avais 6-7 ans et que je regardais un dessin animé culte. Ça s'appelle « Il était une fois la vie ». On y voyait des bactéries, des agents pathogènes et des gentils anticorps en habits futuristes lutter contre les maladies.
Se multiplie de plus en plus vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Vos métros avec tous vos anticorps spécifiques.
Prévotella, Akkermansia, Escherichia coli, Firmicutes, Bacteroides, tous ces types de bactéries que l'on croise un jour et qui vivent en nous, racontent donc ce que nous sommes et elles sont donc aussi issues de nos trajectoires personnelles, de nos modes de vie, de nos stress, mais aussi de notre alimentation qui dit, elle aussi, nos identités et notre quotidien. Diabétique, végétarien, amateur de liqueurs ou de hamburgers, biberonné aux produits ultra transformés ou bio, avec un pouvoir d'achat compatible avec la livraison de sushis et de produits du terroir ou abonné aux conserves. Bref, leur présence raconte une histoire unique, un peu comme nos empreintes digitales ou la couleur de nos yeux. À chacun sa signature, mais il y a quand même des grands types de microbiotes, un peu comme les groupes sanguins. On appelle ça les entérotypes.
Alors, on en a trois entérotypes chez l'homme qui sont fréquents dans la population.
Marc-André Sellos, biologiste et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Mais, petit 1, on peut changer d'entérotype dans sa vie, notamment en changeant d'alimentation, puisqu'en fait c'est l'alimentation qui détermine qui arrive à vivre dans le tube digestif.
Donc on ne peut pas changer de groupe sanguin, mais on peut changer de microbiote.
Exactement. Et il y a aussi des individus qui tombent entre les gouttes. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui n'ont pas les... Enfin, qui ont un microbiote du tube digestif qui n'est pas celui des entérotypes.
Ah bon, qui est
qui sont différents. Et d'ailleurs, il y a notamment les individus qui sont en train de changer d'entérotype. Bah, ils sont à mi-chemin entre deux entérotypes parce que leur microbiote est en train d'évoluer puisqu'ils sont en train de changer d'entérotype. En revanche, il y a tout un déterminisme du mode de vie, comment on vit, mais aussi un déterminisme génétique. Par exemple, quand vous comparez deux vrais jumeaux, mais qui ne vivent pas ensemble, donc qui sont génétiquement identiques, mais ils vivent pas au même endroit, vous apercevez qu'ils sont plus semblables entre eux en microbiote que deux individus pris au hasard dans la population. Ça veut dire que le génome compte, mais il fait pas tout. Quand vous prenez deux personnes d'un couple qui vivent ensemble, vous apercevez qu'elles sont plus semblables que deux individus de la population pris au hasard. Ça veut dire que le fait de vivre au même endroit et d'avoir un certain nombre d'habitudes en commun, ça influe sur le microbiote. Vous voyez, il est à mi-chemin entre comment on vit, avec qui on vit, et qu'est-ce qu'on est génétiquement. Et après, effectivement, on s'aperçoit que le microbiote de la femme et de l'homme sont différents. C'est probablement un reflet de l'état hormonal. D'ailleurs, on sait qu'au cours du cycle menstruel, on a des changements d'abondance des microbes. Le microbiote change au cours du cycle menstruel, et donc notre bain hormonal influe notre microbiote. Mais vous savez, c'est pas étonnant. On sait que notre microbiote émet des molécules qui régulent le fonctionnement du système nerveux, du fonctionnement de tout un tas d'organes. Ben nous aussi, on émet des molécules qui régulent le fonctionnement de notre microbiote et qui promeuvent un certain nombre d'espèces et qui, au contraire, en limitent d'autres. Donc il n'est pas étonnant que quand notre bain hormonal change, il y a un certain nombre d'espèces qui changent.
Est-ce que ça peut avoir un rôle sur l'évolution de nos identités ?
Ça peut. Il est clair que le fait que nos microbiotes diffèrent un peu entre les deux sexes, ça fait partie des choses qui vont construire les différences physiologiques et biologiques entre les deux sexes. Mais c'est encore mal connu.
Alors, si notre microbiote raconte notre sexe, homme ou femme, il peut dire aussi d'où l'on vient, ce que mangeaient nos grands-parents et nos ancêtres. Mais si on est tous si uniques, comment est-ce que l'on pourrait définir une norme qui correspondrait donc à un équilibre entre toutes nos espèces bactériennes et qui serait donc signe de bonne santé en nous ? Comment est-ce qu'on pourrait faire tout ça si l'on n'a pas tous les mêmes origines, les mêmes genres et la même classe sociale ? Comment est-ce que l'on pourrait savoir comment bien nourrir notre microbiote ? C'est ce que j'ai demandé à Krotoum Konaté.
Alors, c'est toujours intéressant de comprendre l'origine, enfin d'identifier, parce que quand on fait des analyses de microbiote, en fait, on a beaucoup de données qui viennent de populations caucasiennes, blanches, ok ?
Pourquoi ?
Bah, parce que c'est là on a plus de données scientifiques. Beaucoup de données qui viennent des États-Unis, etc. Donc plutôt sur des profils blancs. Et que quand finalement on dit que on va comparer, on va dire que le microbiote il est sain, il est plutôt équilibré et qu'on fait des comparaisons. Mais si on tient pas compte de l'origine de la personne, on peut parfois se dire oh là là, cette personne elle a beaucoup trop de ces bactéries. Mais si elle vient d'un continent où c'est normal, vous voyez. Donc il faut tenir compte aussi des origines de la personne. Enfin moi c'est le constat que j'en fais. Je suis née en France, j'ai toujours vécu en France. Et je suis très peu allée sur le continent. Quand je suis allée quand même sur le continent africain, alors là, j'ai eu des intoxications alimentaires, des gastro et tout. Alors là, mon microbiote, il a été bien malmené. J'ai tout eu, j'étais malade comme pas possible. Donc ça, c'était déjà intéressant parce que bon, je suis née en France, voilà, j'avais une alimentation mixte puisque je mangeais quand même des plats, on va dire, de chez nous. Riz, du mafé, sauce gombo, des trucs comme ça. Mais je mangeais aussi classique, occidental. Moi, j'ai grandi avec la baguette. On allait acheter la baguette chaude et tout. Avant d'arriver à la maison, on avait mangé la moitié. Donc ça, voilà, c'est du vécu. Et ben, finalement, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à avoir plus mes soucis digestifs après mes voyages en Afrique. eh ben, des aliments comme le pain, enfin tout ce qui était à base de blé, ça passait moins bien. Ce que j'ai aussi observé, c'est que quand je mangeais, par exemple, du manioc, de l'igname, une sauce au gombo, du mil et tout, alors là, il n'y avait aucun problème. Donc ça, c'est vrai que ça m'a quand même un peu interpellée en me disant que on a une signature, effectivement, et qu'on a certainement un héritage, et que de toute façon, on sait que le microbiote, cet héritage, c'est pas juste celui de ma mère, c'était ma mère, ma grand-mère, etc. Et que finalement, il y a des habitudes alimentaires qui sont qui contribuent en tout cas à la, au développement de ce microbiote. Et j'ai aujourd'hui la conviction, enfin moi aujourd'hui ça fait partie de ma pratique, j'ai des gens d'Asie, des gens de la de l'Europe du Nord, donc j'ai des Suédois, j'ai des, beaucoup de gens du Maghreb, des gens de l'Afrique subsaharienne, beaucoup de Français, on va dire caucasiens, etc. Et quand par exemple l'autre jour je discutais avec une personne d'Asie et qui m'expliquait qu'elle mangeait beaucoup de graines germées, elle avait réduit fortement la viande, et puis elle était sans gluten, etc. Elle avait beau, soi-disant, bien manger.
Parce que ça, c'est un peu ce qu'on vous recommande.
Mais oui, mais elle avait hyper mal au ventre. Et il y a un moment, je me suis dit, écoutez, vous venez d'où ? Je crois qu'elle vient du Vietnam. Je dis, chez vous, même si vous êtes née ici, comment mangent vos grands-parents ? C'est quoi ? Quand les gens vont pas bien, qu'est-ce qu'on leur donne ? Et puis là, elle me dit, c'est vrai que nous, on a beaucoup de bouillon avec de la viande qui a été un peu mijotée. Il y a beaucoup de légumes sautés, etc. Des choses avec... Après, il y a beaucoup d'herbes, de la coriandre, etc. Je dis, vous mangez des graines germées ? Elle me dit, non. Je dis, bon, il y a un moment, pourquoi vous vous obstinez à vouloir mettre des graines germées à tout va ? Donc, et après, elle me disait, c'est vrai que maintenant que vous me dites ça, j'ai envie de temps en temps de manger des soupes avec les pieds de porc et tout, mais quelque part, elle se retenait et tout. Je dis, mais écoutez-vous, quoi, votre corps, il est en train de vous dire par X manière qu'il a besoin que vous lui apportiez un peu ça. Et à un moment, c'est toujours intéressant de voir comment mangeaient vos parents, vos grands-parents, parce que c'est aussi ça qui fait partie de votre identité microbienne, en quelque sorte. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne s'adapte pas.
Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis. Attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi, un plaisir délicieux m'avait envahi. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi. Elle était moi. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait. Marcel Proust.
On a beaucoup pensé l'alimentation comme étant une façon de nourrir l'homme, en fait, nos cellules, pour couvrir nos besoins physiologiques. Et ça, ça a été la science qui a couvert les dernières années, les dernières décennies. On s'aperçoit aujourd'hui que l'alimentation, elle doit aussi nourrir notre microbiote intestinal.
Patrick Vega, directeur de recherche en nutrition à l'INRAE.
Et ça, on en sait beaucoup moins. Quels sont les besoins nutritionnels du microbiote intestinal ? Ça reste un vaste champ de recherche et de découverte. On sait toutefois que les fibres qui sont dans notre alimentation ne sont pas digérées par nos cellules et vont arriver en grande quantité dans notre côlon et vont être digérées par notre microbiote intestinal.
Alors, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on a en nous un microbiote qui nous aide à digérer, qui détoxifie certains aliments et qui fait des vitamines pour nous.
Marc-André Sellos, biologiste et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Par contre, il faut fournir à ces microbes des choses qui les aident à se développer. Et c'est en partie la raison de manger des fibres. Manger des fibres, on ne les digère pas, les fibres. C'est ces composants qu'on trouve dans les légumes ou dans les fruits. Et dont les Français, par exemple, ne mangent que la moitié de la dose recommandée. On ne les digère pas, nous.
Nous, c'est eux.
Mais oui. Enfin, alors, voilà. On ne les digère pas, nous, humains purs. Mais nous, humains colonisés, il y a quelque chose qui les digère en nous. Ce sont nos microbes. Ce sont en fait les fibres, les aliments de nos microbes. Donc il faut manger plus de fibres. Et ça, ça encourage les microbes à se développer. Alors c'est d'autant plus important de se nourrir de ça que les microbes de notre tube digestif, les bactéries qui fermentent ces fibres, produisent du butyrate. Et le butyrate est un très bon régulateur du fonctionnement du système immunitaire. En plus d'ailleurs que d'être une source d'énergie pour les cellules de l'intestin. C'est donc quelque chose qui a aussi des vertus sur le bon fonctionnement de notre système immunitaire et c'est d'ailleurs une des choses qui est détraquée chez beaucoup de personnes qui développent des maladies auto-immunes ou des syndromes inflammatoires divers. Si jamais ces microbes n'ont pas de fibres dans l'alimentation, alors d'abord certains d'entre eux disparaissent, mais d'autres, comme les Akkermansia par exemple, commencent à dévorer le mucus qui tapisse notre tube digestif et qui est une sorte de no man's land, de barrière naturelle qui sépare les microbes du tube digestif des cellules qui bordent l'intestin. Et du coup, comme ils boulottent cette couche protectrice, des bactéries indésirables se rapprochent, voire même finissent par toucher les cellules de l'intestin et commencent à faire des besognes qui sont pas bonnes, et notamment à émettre des molécules qui sont activatrices du système immunitaire, qui sont pas à bon escient. Donc en fait, on aboutit au contraire à un effet très négatif quand on mange pas de fibres, parce que les quelques bactéries mangeant des fibres qui survivent s'attaquent à la protection naturelle de nos cellules intestinales et permettent à des bactéries indésirables de s'approcher de nos cellules intestinales. Donc il y a plein de raisons de manger des fibres, oui, ça c'est sûr.
Et les fibres représentent la source majeure d'énergie pour notre microbiote intestinal. C'est en quelque sorte l'équivalent de la lumière pour la planète Terre. La lumière, les rayons du soleil, c'est ça qui va donner l'énergie à l'écosystème Terre pour donner la vie.
Lieutenant ! Mon lieutenant ! Colonie de bactéries en vue !
Du calme ! Ce sont des Escherichia coli, nos meilleurs alliés, imbéciles.
Et ça explique un peu plus pourquoi aujourd'hui on nous recommande de manger 30 grammes de fibres par jour, 5 fruits et légumes, puisqu'en fait c'est des fibres avec lesquelles on va nourrir notre microbiote intestinal. Ce qui est très bien pour la planète, puisque ça nous permet de diminuer nos protéines d'origine animale. Ceci dit, le contrepartie, c'est qu'on va métaboliser, on va nourrir beaucoup plus notre microbiote, qui va être beaucoup plus actif. Le microbiote va aussi produire des gaz en fait. C'est-à-dire que plus on a de flatulence, plus c'est un bon signe d'une bonne fermentation, et plus on va manger des fibres, et plus on va avoir des flatulences. Ça, c'est très bien. Ma femme me dit souvent que sa mamie, qui est d'origine aveyronnaise, lui disait « qui pète à plat se porte bien ». En fait, il y a un fond scientifique à cette expression aveyronnaise. Et on produit entre environ 1 litre de gaz par jour, par exemple. Au cours de l'évolution, ça n'a pas posé de problème, puisqu'on passait notre majorité du temps à l'extérieur. Aujourd'hui, dans le mode moderne, on passe notre temps entre quatre murs. En société, il est plus difficile d'excréter ces gaz par voie naturelle. Donc, d'avoir des flatulences, en fait.
Il y a dans l'intestin d'un seul humain des milliers de fois plus d'organismes vivants qu'il n'y a d'hommes sur la Terre. Certains d'entre eux sont bénéfiques, mais beaucoup d'autres néfastes. Quand les bénéfiques ont le dessus, c'est presque toujours le cas, tout va
donc
bien.
Donc il y a beaucoup d'espèces dont l'alimentation contient des toxines que le microbiote détoxifie. Et pour certaines espèces qui ne mangent qu'une ressource de nourriture, elles ont absolument besoin de ces microbes. Il y a des espèces qui dépendent très strictement de microbes pour supporter leurs aliments. Parce qu'un des rôles des microbiotes est de détoxifier les aliments. Par exemple, les koalas mangent des feuilles d'eucalyptus, c'est bourré de terpènes et surtout de tanins, des polyphénols toxiques, et ils ont une bactérie, l'Onpinella koalarum, qui dégrade ces tanins et qui fait que, finalement, les koalas ne sont pas intoxiqués par ces tanins puisqu'ils sont inertés dans le tube digestif par ces bactéries. Le problème, c'est que le nouveau-né, au moment du sevrage, il n'a pas forcément ces bactéries. Tant qu'on est alimenté au lait, on ne peut pas entretenir ces bactéries-là. Alors, vers le moment du sevrage, la maman est prise d'une forme de diarrhée qui colle au poil de ses fesses. Et le petit, alors je suis désolé, c'est un peu répugnant vu d'un point de vue humain, mais c'est très sain d'un point de vue de koala, le petit va lécher ses poils et il va s'infecter avec les bactéries qui sont très abondantes dans ce jus qu'a émis la mère et qui ont collé au poil. Et c'est ainsi que se fait la transmission, qui fait que le petit va pouvoir commencer à manger de l'eucalyptus en ayant les bactéries. Il y a des exemples chez l'homme, hein, par parenthèse.
En fait, si je comprends bien, nous, les êtres humains, nous sommes un peu comme les bébés koalas. Nous dépendons de certains microbes que nous avons en quelque sorte recrutés au fil de l'évolution pour nous aider à digérer, à créer des vitamines ou à métaboliser les toxines de certains végétaux, par exemple. On pourrait alors presque dire qu'on a sous-traité certaines fonctions indispensables à notre survie, à nos invisibles.
Alors ça, c'est très intéressant que vous utilisiez le mot sous-traité, puisqu'effectivement, on a passé un pacte avec nos bactéries. L'évolution aurait pu faire qu'on internalise ou on développe nous-mêmes les enzymes nécessaires à digérer toutes les fibres, tous les polysaccharides contenus dans les végétaux. Le problème, c'est qu'elles sont très diverses en fait dans la nature. Et il aurait fallu qu'on développe énormément de différentes enzymes pour digérer de temps en temps une fibre que l'on croise dans de la salade, de temps en temps une fibre qu'on croise dans un pois chiche. Ça aurait été demandé beaucoup d'énergie. On a pris le parti inverse, de sous-traiter à notre microbiote, qui lui va s'adapter beaucoup plus finement à notre alimentation. Donc si on mange beaucoup de salade, par exemple, ou de pois chiche, on va favoriser les bactéries qui vont être spécialisées dans la digestion des fibres qui sont contenues dans ces aliments-là. Et il y a un célèbre exemple que j'utilise souvent, c'est la fameuse enzyme que l'on retrouve dans les populations japonaises et qui permet de dégrader les fibres contenues dans certaines algues utilisées pour faire des sushis. Et cette enzyme est absente des microbiotes européens, puisqu'en fait, on n'a pas adapté, on n'a pas eu besoin de sélectionner des bactéries qui vont dégrader cette algue-là.
Alors c'est vrai que quand on regarde ce constat où on est tout ou partie dépendant de microbes pour les fonctions organiques, on peut se demander quel est le scénario évolutif qui a mis ça en place. Il y a aussi un mécanisme où on sait faire quelque chose et on désapprend à le faire parce que quelqu'un d'autre le fait. Et par exemple, on sait que l'essentiel de la sérotonine, qui est une molécule très importante pour ce qu'on appelle la neurotransmission, c'est-à-dire les échanges entre les neurones dans les synapses, 80% de la sérotonine est produite par les microbes de notre tube digestif. C'est pas qu'on puisse pas en produire nous, mais c'est que dès lors que c'est produit par les microbes, c'est pas la peine d'en produire nous. Parce que, comme on est habité d'organismes qui savent le faire aussi, à un moment, par hasard, on peut perdre la capacité à le faire. C'est pas gênant puisqu'ils sont là. Donc, ces dépendances qu'on a sont à la fois des dépendances parce que nous avons acquis des traits en acquérant des partenaires, mais aussi des dépenses parce que ces partenaires étant là, il est arrivé qu'on leur délègue la réalisation de fonctions qu'on faisait avant. Vous êtes dans un bureau, par exemple, qui historiquement a été nettoyé par des fonctionnaires, et maintenant, on délègue ça à des entreprises privées qui viennent faire le nettoyage. Bon.
Des invisibles.
Alors, ils sont invisibles en plus parce que, comme ils travaillent quand on n'est pas là, l'idée c'est que on passe à des modalités de sous-traitance biologique. Et si vous pensez que vos ancêtres, depuis des millions, j'ai bien dit des millions de générations, coexistent avec des microbiotes faits de milliers d'espèces, les occasions qu'à un moment une fonction soit déléguée à un microbe ont pullulé dans notre histoire évolutive. Et du coup, nous devenons indétricotables de notre microbiote qui, par plein de points, a acquis des rôles utiles, voire nécessaires. C'est ça la dynamique évolutive qui est derrière. C'est aussi simple que ça. Parce que nos ancêtres ont toujours vécu dans un environnement fait de multiples bactéries, et c'est ainsi qu'on recrute son microbiote.
Attention, attention, les salmonelles se reproduisent à toute allure. Danger. Oh là, anticorps.
Ça veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi.
À mes ordres d'urgence.
Ça veut dire qu'on pourrait avoir dans nos intestins certaines bactéries à un moment donné parce qu'on va avoir une alimentation. Je sais pas moi, d'aligo à Véronais, et que ça évolue en fait. On n'a pas toujours les mêmes bactéries et puis on les emploie pas toujours de la même façon selon ce qu'on mange.
C'est ça, il y a une adaptation de l'écosystème intestinal à ce que l'on mange. Ceci dit, donc quand on demande aux gens ce qu'ils ont mangé il y a un an ou il y a cinq ans, on mange généralement la même chose et nos patterns, nos profils alimentaires restent stables. Donc ça explique aussi, entre autres, pourquoi le microbiote est stable finalement. Si on change drastiquement notre alimentation, ce qui est le cas dans certaines pathologies, ou alors quand on a envie de changer d'alimentation, d'habitude alimentaire, on va avoir un impact fort sur le microbiote intestinal. Mais ça va mettre un moment à se mettre en place, en fait. C'est-à-dire que les interactions entre les espèces vont mettre un moment à se réhabituer à notre nouvelle alimentation. Autrement dit, si vous mangez demain de la junk food, vous n'allez pas changer votre microbiote du jour au lendemain. Donc ça va prendre plusieurs semaines, mois, voire années avant d'avoir un changement important de votre microbiote intestinal. On est ce qu'on mange, ça c'est certain, c'est ce qu'on se dit, et notre microbiote est le reflet de ce qu'on mange. Ce qu'on sait, c'est que notre alimentation peut avoir un impact sur notre état de santé et sur notre santé mentale également. Sur notre dépression, sur la capacité à être stressé ou être anxieux, et sur des choix également de tous les jours. Il y a une étude qui a montré, alors c'est une étude qui est faite chez la drosophile, hein, qui est très loin de l'homme, mais qui montre donc chez la mouche que deux mouches en fait qui mangent deux alimentations tout à fait différentes vont moins bien s'accoupler que des mouches qui mangent la même alimentation. Si on donne des antibiotiques à ces mouches, eh bien elles vont se reproduire avec n'importe quelle autre mouche. Il n'y aura plus donc d'effet alimentation. Il y a des phénomènes et des mécanismes qui sont mis en place pour guider nos choix alimentaires. Et peut-être que notre microbiote intestinal, et là c'est un peu provocateur, va décider pour nous d'une alimentation qui lui serait favorable. Ça, on peut aussi l'imaginer. Peut-être que des bactéries qui vont être friandes de fibres vont, d'une certaine manière, trouver des mécanismes pour stimuler la consommation de fibres. Et au contraire, des bactéries qui sont friandes d'alimentation très grasse, il y en a qui existent, vont mettre en place des mécanismes pour qu'on aille choisir des alimentations beaucoup plus grasses.
Est-ce que ça voudrait dire que les bactéries qui aiment les graisses de la malbouffe, des frites par exemple, pourraient influencer nos envies? Parce que souvent quand on mange des frites, après on a envie de manger des frites.
C'est tout à fait possible. On a démontré qu'effectivement quand on mange de la malbouffe, des frites ou des régimes riches en graisses, on stimule certaines bactéries qu'on appelle pathobiontes ou pathogènes opportunistes qui vont déclencher des réactions pro-inflammatoire dans le microbiote intestinal, et il n'est pas impossible que ça va stimuler également un cercle vicieux qui va permettre le maintien de l'hôte dans cet état de santé dégradé finalement pour l'hôte, mais favorable pour la bactérie qui se voit en fait stimulée par ces graisses-là.
J'ai mal au ventre.
Mon ventre sait. Mon ventre a ses rangs.
J'ai mal au ventre.
J'étais ingénieur informaticien. Bon, je mangeais du fast-food, un peu comme tout le monde, mais je voyais très bien que j'avais des préférences qui étaient beaucoup plus poussées que d'autres personnes.
Sauce blanche, kebab, frites.
Ouais. Et à ce moment-là, j'étais un passionné d'une certaine marque qui faisait un burger avec du bacon.
Raphaël Vicente, maître fermenteur.
Dès que je buvais de l'alcool, et j'avais très très mal, j'avais des douleurs très intenses, et je passais ma vie aux toilettes. Même au travail, du coup, ça m'empêchait un peu de travailler, mais bon, j'aimais quand même trop manger. Et j'étais en errance thérapeutique pendant 2 ans et demi, presque. C'est-à-dire, j'ai vu une dizaine de médecins, personne ne savait. Et là, j'étais vraiment en bas de ma pente, parce que j'avais perdu 10 kilos en un mois. Au bout d'un moment, je suis allé voir l'un des plus grands chercheurs en France sur la maladie de Crohn, qui était à Nice, parce que j'habitais dans le sud, en fait. Il m'a vu arriver, rien qu'à ma démarche, il a à peine touché mon ventre, il m'a dit « je pense que c'est ça, on va faire un examen ». Le diagnostic, c'était une maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire des intestins. Donc je n'arrivais plus à rien consommer. Et du coup, il m'a donné des anti-inflammatoires locaux, juste pour les intestins. Et tous les ans, je faisais une rechute. À ce moment-là, c'était il y a 9 ans. On n'entend pas trop parler de microbiote. Et du coup, j'ai dû commencer à me dire, bon, comment je vais faire pour ça? Et j'ai déconstruit toute mon alimentation. Et j'ai reconstruit petit à petit. En parallèle à tout ça, ben, mon attrait pour la gastronomie a augmenté sans cesse. Pendant le confinement, j'ai commencé à travailler là sur la fermentation. Et c'est là que je me suis intéressé à la fermentation japonaise. En fait, la fermentation m'a impacté petit à petit. Je m'en suis rendu compte petit à petit, parce que je n'étais pas forcément convaincu au début. Et suite à mes expérimentations, c'est là que je suis tombé sur la masaké, qui est la boisson à base de riz fermenté traditionnelle au Japon, qui est un cousin du saké, mais sans alcool, tout doux, comme un lait d'amande, naturellement sucré, très long en bouche. Je suis tombé amoureux. Et directement, j'ai senti au niveau intestinal que, en plus de m'apaiser, ça avait un certain effet. J'avais moins de douleurs. J'étais moins barbouillé. C'est compliqué à décrire parce que ça se produit pas instantanément. Je sentais mon organisme différent, mon énergie différente, etc. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est mon produit.
Quiconque jugera avec impartialité les résultats du travail que je publierai prochainement reconnaîtra avec moi que la fermentation se montre corrélative de la vie, de l'organisation de globules et non pas de la mort ou de la putréfaction, pas plus qu'elle n'y apparaît comme un phénomène de contact ou de transformation du sucre qui s'accomplit en présence du ferment, sans rien lui donner, sans rien lui prendre. Ces derniers faits, on le verra bientôt, sont contredits par l'expérience. Louis Pasteur, mémoire sur la fermentation appelée lactique.
Selon le dictionnaire d'Oxford, l'Oxford Dictionary, fermenter a la même racine latine fervere que ferveur. Ce serait le fait d'être excité par l'émotion ou la passion qui tend à produire un état des choses plus pur, plus sain ou plus stable. Il s'agirait donc en quelque sorte de dompter les microbes et d'observer le travail de ces invisibles en dehors de nos intestins, dans des bocaux, avant de les manger. En échange de cette culture, ils nous offrent des prébiotiques et des probiotiques qui vont à leur tour nourrir nos bonnes bactéries. Et bien avant de devenir un imaginaire culinaire et une source d'images sur Instagram, parce que la fermentation c'est devenu très tendance, ces mondes invisibles de moisissures, de levures, se sont invités dans toutes les cultures et dans toutes les traditions populaires. Dans des spécialités comme le kéfir, le café, le chocolat, le yaourt, les cornichons, la choucroute ou le saucisson. Bref, tous les aliments si culturels qu'il nous manque quand on est loin de nos terroirs, parce que depuis des siècles, les humains fermentent.
Dans toutes les civilisations, on voit émerger des pratiques fermentaires. Elles ont dû d'ailleurs commencer dès l'époque des chasseurs-cueilleurs avec le faisandage, qui est une façon de faisander, c'est commencer à digérer des muscles et des tendons qui sont beaucoup trop dur et ferme pour être digéré par notre propre tube digestif, ça nous raconte que les microbes sont tellement partout et tellement capables de faire des kyrielles de choses que dans l'évolution, qu'elle soit culturelle ou biologique, une des solutions c'est de recruter des microbes. Et on s'est retrouvé à faire la même chose dans notre évolution biologique et dans notre évolution culturelle. Il y a une grande convergence ici entre l'évolution culturelle et l'évolution biologique, et je fais partie de ceux qui pensent que ça, c'est deux pans de l'évolution en général. Mais en fait, il y a un virage, notamment avec la cuisine dite française, où au 19e, on commence à faire une cuisine noble, qui est plus une cuisine rustique, qui est faite avec des sauces, avec des cuissons, avec des rôtis. Et cette cuisine française, qui émerge progressivement, mais qui prend ses lettres de noblesse et qui se diffuse au 19e, c'est une cuisine qui marginalise la fermentation. Il y a moins de produits fermentés. Moi, je suis frappé quand je vais en Pologne de voir les betteraves fermentées, les soupes à la farine fermentées, les cornichons fermentés, toutes les variétés de choucroute. Il y a une variété de fermentation qu'on a perdue, nous, parce que on a eu une évolution culturelle autour d'une cuisine faite avec des produits frais, cuits et repris en sauce. La sauce donnant des parfums et des arômes qui compensaient les parfums et les arômes de la fermentation. Ils ne sont restés sur nos tables que des produits comme les fromages ou le vin. Et donc, ça a été un des facteurs qui, avec l'hygiène, nous a éloignés des microbiotes environnementaux. L'avènement de la cuisine française et de la gastronomie européenne, d'une certaine façon.
Généralement, un poisson, au-delà, même à 4 jours, ça commence déjà à sentir, c'est pas très agréable. Là, c'est complètement l'inverse. On est à mi-chemin entre une salaison, une charcuterie, parce qu'on amène souvent une fumigation, et une cuisson simple de poisson.
Chef Hugo Bourny, dans les cuisines du restaurant Lucas Carton, un des premiers restaurants gastronomiques ouverts à Paris.
Alors, on a déjà des parfums qui remontent dû à cette fermentation. Alors ici, on a pris parti de contraster avec le lieu qui est, vous avez vu la salle, emblématique avec des boiseries du 19e, enfin des choses plutôt classiques. Et donc nous, on propose une cuisine qui est plutôt moderne. Voilà, donc on s'interdit rien, on utilise tout type de préparation, que ça va de la fermentation, kombucha ici, des garum de parmesan, garum de sardine, kéfir de rhubarbe. On a l'amazake traditionnel que notre ami Raphaël produit. On fait des lactofermentations aussi de légumes avec du sel. Là, j'en ai en bas en cours d'élevage, je dirais. La sauce à bouillot, je vais rajouter le sureau, le beurre.
Pendant que les chefs moléculaires espagnols cuisinent comme des biochimistes, les Scandinaves du Noma à Copenhague, censés être le meilleur restaurant du monde, se sont mis à fermenter. Un peu pour soigner nos microbiotes, et aussi pour ce petit shot d'umami, ce nouvel horizon gustatif, ce sixième goût perdu. Leur signature, les garum, les vieilles recettes oubliées en Occident de sauce de poisson fermentée latine qui était indispensable à l'époque des Romains. C'est une sorte de mélange grumeleux de poisson, de sel et d'eau qui se putréfie de façon contrôlée bien sûr. Chez Luca Carton, Raphaël Vicente, l'ex-fan de junk food, collabore avec le chef Bourny pour créer un garum de parmesan unique.
Ça sent un peu la sardine dans toute la cuisine là.
Le garum, c'est un mot qui peut représenter soit la sauce poisson fermentée comme on le faisait à une certaine époque, soit un mélange entre les principes de la sauce soja traditionnelle japonaise, mais en rajoutant du poisson.
Allez-y, goûtez.
Elle est encore assez jeune, mais elle a déjà une sacrée aromatique.
Elle a déjà son identité.
Oui.
Oui.
Moi, j'adore.
Non, c'est très bon. On sent bien le parmesan, mais maturé. Donc, c'est bon. Et donc, c'est du parmesan, de l'eau et du sel.
Non, là, c'est base.
Recette du garum de sauterelle. Vous pourrez acheter des sauterelles dans les animaleries ou les boutiques vendant des insectes comestibles. Mais vous aurez peut-être plus de difficultés à trouver des larves de mythes. Pour environ 2 litres, 600 g de sauterelles ou de criquets, vivants ou morts, 400 g de larves de mythes, 225 g de koji d'orge perlé, 800 g d'eau, 240 g de sel non iodé. Mixez les sauterelles et les larves pour obtenir une pâte. Mélangez les insectes, le koji, l'eau et le sel, puis versez la préparation obtenue dans un récipient de 3 litres. Laissez fermenter dans une chambre de fermentation à 60 degrés en remuant le garum une fois par semaine. Il est prêt quand il a un goût de noisette grillée et qu'il est gorgé d'umami.
Alors on était dans votre cuisine, chef Hugo Bourny. C'est donc la cuisine d'un grand restaurant, donc c'est une cuisine évidemment très propre, en inox, avec beaucoup de règles. Et on a découvert des bocaux un peu troubles, un peu anciens, qui semblent être abandonnés là, qui ressemblent un peu aux bocaux qu'il y avait chez ma grand-mère. C'est un peu étonnant. Est-ce que travailler la fermentation, ça implique un autre rapport, en tout cas aux microbes, y compris dans un grand restaurant non, comme
oui,
ici ?
Tout à fait. Et ça, c'est très vrai. Il y a d'ailleurs un flou juridique là-dessus, sur la fermentation, en termes au niveau de l'hygiène. Ben, voilà, parce que ça a besoin d'une température ambiante, ça a besoin finalement, là où l'hygiène nous empêche le développement microbiologique, ben, ici, il faut que ça se développe. Donc on est un peu sur une antithèse de tout ce qu'on nous apprend dans l'hygiène. Donc c'est ça qui est également amusant.
C'est aussi une cuisine d'expérience, d'expérimentation, oui. De tâtonnement.
On projette un résultat et on laisse le temps faire, on laisse la bactérie prendre sa place et on découvre ce qu'elle a créé après.
Est-ce qu'on peut dire que vous jetez des pensées dans un bocal et que vous laissez les microbes agir ?
Décider, oui, on peut dire ça.
Depuis que le Noma à Copenhague a poussé la fermentation vers la haute gastronomie, c'est devenu très tendance. Alors, pour soigner mes invisibles et mes maux de ventre, je me suis, moi aussi, mise à fermenter chez moi, à mélanger des légumes, du sel et à attendre avec ma fille.
Suspense. Comment tu décrirais l'odeur ?
C'est pas très bon. Il y a un petit truc qui a dérapé.
Ouais.
J'ai commencé à faire du kombucha, c'est une boisson au thé fermenté qui est pleine de vertus pour la digestion, paraît-il. Et puis, mes bocaux de betterave sont devenus rose fluo, mes cornichons ont un peu moussé, et ils ont fini par sentir carrément le pourri. Mais j'ai réussi à faire du kimchi. Ça, c'est un chou fermenté au piment qui est pour les Coréens l'équivalent du fromage pour les Français, c'est-à-dire un indispensable à la digestion d'un repas. J'avais trouvé la recette dans un livre qui s'appelle L'art de la fermentation de Camille Auger et Luna Kyung, qui est une artiste coréenne de la fermentation. Alors, je les ai invités dans un petit studio de Radio France. On était toutes serrées, un peu comme des légumes dans un bocal.
Mes amis. Mes amis vivants. En fait, je suis venue avec des bocaux en fermentation. Comme on dit, les aliments fermentés, ce sont des aliments vivants. En fait, c'est parce que il y a toujours des processus biochimiques. Là, il y a des bactéries, des levures, il y a des légumes qui font beaucoup de gaz. Et aujourd'hui, il fait chaud et pendant le, je suis venue en transport commun, je marchais, du coup, il y avait beaucoup de secouement. Ce qui fait, ça commence à échapper le gaz. Ça commence à sentir dans la rue déjà l'odeur. C'est comme un petit animal domestique. Il n'aime pas trop le transport. Donc, il y a un bocal très spécial. C'était, j'ai vu la date, c'était 20 avril 2016. Ouais. Il est figuré dans mon livre 10 façons de préparer les invisibles. Ce sont les têtes d'ail qui sont fermentées pendant 7 ans. C'est une recette très simple, mais le plus dur, c'est d'attendre 7 ans. Mais en même temps, ce n'est pas très dur, il suffit de l'oublier. Et on y arrive. Je vais voir. Est-ce qu'il reste du gaz malgré le transport agité? Non, ça n'a pas sauté. Mais j'ai senti les gaz sortir. Il y a aussi dans la fermentation, il y a quelque chose un peu comme une recette grimoire. Parce que la fermentation, c'est vraiment à l'infini. Surtout, il y a un côté un peu magique. On ne sait pas comment ça va finir. Il y a une forme de croyance pour que ça marche. Dans la fermentation, il y a ce côté un peu... une doute. Quand on fait une fermentation, on n'est jamais sûr d'arriver à ce qu'on veut. Donc, ce côté un peu doute, incertitude, et c'est un travail très solitaire, intime. Dans la cuisine, on est juste moi et le produit et les micro-organismes qui sont invisibles. Moi, tu mets du sel, tu mets des choses qu'il faut, tu mets au frais ou au chaud. C'est tout ce que tu peux faire. Je trouve que c'est très artistique. En plus, il y a une idée de pourrissement quand même dans la fermentation. Ça touche le côté obscur. C'est aussi, je trouve, très artistique. Le pourrissement et la fermentation, c'est quelque chose qui se touche un peu doigt d'eau. Il y a juste le temps qui passe, tic-tac, tic-tac, et il y a autant de bactéries pendant ce temps-là. Et on sent le vide, on ne voit rien, mais on sent qu'il y a quelque chose qui grouille dans l'air. Et quand il y a des déchets, on est face à au moisissure, des champignons, des bactéries qui ont une odeur très bizarre, très désagréable. Il faut assumer tout ça. C'est aussi hein, ce côté un peu négatif qui fait partie, quand je dis obscur. Et il faut faire avec. Ouais. Justement, l'art de la fermentation, c'est de choisir parmi les pourritures ce qui nous font du bien. C'est subtil.
On goûte ?
On goûte.
Donc, il y a de la sauce soja ?
Il y a sauce soja, sel et l'eau.
C'est tout.
C'est tout.
Pas de sucre.
Pas de sucre, ouais. Mais il donne le lait, il donne beaucoup de sucre. Voilà.
On croque. C'est bon, bah c'est à l'ail.
C'est l'ail,
ouais. Ah, c'est l'ail pur, là.
Là, on revient vraiment à un besoin vital. Parce que l'objectif de fermentation aussi, c'est de rendre l'aliment plus digeste. C'est que c'est, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, l'acte de se nourrir, c'est aussi de prendre l'élément extérieur dans son intérieur. Donc il y a toujours un passage qui est délicat parce que chaque chose, on a la volonté de vivre, c'est-à-dire de prendre un étranger pour me nourrir, il faut bien avoir une forme de sas pour qu'il devienne digeste. Sinon, ce sera offensif pour moi. C'est l'élément étranger qui rentre dans mon intérieur. Il faut bien avoir une partie qui change l'état. Ça peut être la cuisson ou ça peut être la fermentation. Comme ça, les aliments devenus digestes et que ça devienne notre énergie, notre chair et notre sang. D'où la notion de diversité très importante. En fait, déjà dans notre microbiote, il n'y a pas que des bons micro-organismes, il y a aussi des méchants qui ne sont pas désirables. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de méchants, les bons ne peuvent plus faire le combat. Ils perdent l'habitude,
ils perdent la combativité.
Voilà. Et ça, c'est aussi, c'est un bon allégorie par rapport à la société humaine. Disons, dans notre microbiote, paraît-il, il y a 20% de bons et le reste sont les bactéries qui sont ni bons, ni bénéfiques, ni méchants. Par contre, si la proportion de mauvaises bactéries augmente, la partie neutre suit ce dirigeant, en quelque sorte. Et si la partie de bons bactéries est nombreuse, le peuple suit le dirigeant qui est bien. Et sinon, la grande majorité, ce sont des micro-organismes qui sont ni bien, ni mauvais, mais ils sont là, voilà. Alors, on va goûter les cornichons. Je l'ai coupé à l'avance. En fait, j'espère que ça n'a pas été changé parce que quand c'est aussi longtemps bien chez eux, tranquillement pendant 12 ans dans le bocal et je le sors, je le trimballe partout agité, ils n'aiment pas trop ça. Du coup, ça peut rapidement changer un peu comme s'ils ne sont pas contents. Et j'espère que ça reste encore croquant, je vais voir. Ça reste croquant.
En France, nous, on a une vision parfois un petit peu négative de la fermentation. Quand on pense fermentation, on pense souvent pourri, moisissure, quelque chose d'un peu trouble, pas forcément d'une nourriture noble. Luna Kyung, vous qui êtes coréenne, est-ce que vous diriez qu'en Corée, il y a un rapport différent à la fermentation? Est-ce que c'est plus noble?
Oui, c'est en Occident que la nature est souvent opposée de l'homme. C'était un objet à conquérir, la nature. Chez nous, on était conscient que nous foutions partie de la nature et tout ce qui sont invisibles, les produits fermentés, les produits qui sont vieillis, on voyait plutôt une intervention divine. Par exemple, en Corée, pour faire un grand jour de fermentation annuel où on prépare vraiment de grands jars de soja fermenté, déjà, moralement, il faut être irréprochable. Donc, depuis quelques jours, on fait de bonnes conduites, on se dispute avec personne, on fait de la preuve de bonté. Il faut être prêt à avoir le corps et l'âme propre pour bien préparer la fermentation. Si la fermentation ne marche pas, ça pourrait être un signe de mauvaise augure aussi. La fermentation touche beaucoup avec le côté un peu divin, avec tout ce qui est au-delà de maîtrise de l'homme et l'esprit de l'ancêtre. D'ailleurs, à la maison, il y avait une partie où on réservait les jars en fermentation. C'était là où les grands-mères, les mères allaient prier pour la prospérité, pour la salut de la famille. C'est une pratique très courante. Je viens de cette culture, donc sûrement j'étais imprégnée de ça.
J'ose à penser que l'alimentation du futur, c'est en fait s'inspirer de l'alimentation du passé, en fait. Puisque aujourd'hui, on fait tout sauf manger comme on a fait pendant des millions d'années. Sauf si on se met à évoluer et à s'adapter à une alimentation de junk food et de l'alimentation actuelle. Ce qui n'est pas impossible, où on va devenir résistant à l'obésité, résistant à des inflammations et aux maladies chroniques, par exemple. C'est aussi une éventualité, quoi. Moi, j'ai travaillé dans ma carrière avant sur des aliments fermentés. Donc, je crois beaucoup dans les bénéfices des aliments fermentés. Premièrement, les aliments fermentés, la fermentation est une façon de protéger, de préserver l'aliment de croissance de pathogènes, en fait, sur l'aliment. Donc, ça, c'est une raison sanitaire. Et on sait aujourd'hui que certains métabolites produits lors de la fermentation vont être bénéfiques pour les consommateurs de ces aliments fermentés. On a montré dans le passé, dans mon ancienne équipe, que certains métabolites produits dans les yaourts expliquaient pourquoi on voit une obésité et un risque de diabète moins élevé chez les consommateurs de yaourts. En fait, la science met le doigt sur quelque chose qu'on savait déjà. Les aliments fermentés sont bons et ils sont protecteurs vis-à-vis des maladies chroniques. Et il y a énormément de choses à découvrir sur pourquoi les aliments fermentés sont si bons pour l'homme, finalement.
La fermentation, c'est un petit peu... On peut utiliser beaucoup de métaphores pour en parler. Et quand on regarde ce qui se passe dans un bocal, c'est un petit monde clos pas si clos que ça d'ailleurs, mais qui fonctionne un peu comme une société, avec des événements, avec...
Comme chez les hommes.
Voilà, exactement, comme chez les hommes. Et chaque microcosme est un monde à part, mais on peut avoir des milliers et des milliers et des milliers de mondes différents.
À force de fermenter toutes sortes de légumes chez moi, moi aussi j'ai eu l'impression de voir le monde comme la métaphore d'un bocal en fermentation. Et je me suis demandé ce que Luna et Camille pourraient nous conseiller pour mieux fermenter nos micro-organismes dans ce grand ventre qui est Radio France et qui digère tant d'échanges et tant de microbes.
C'est une question métaphorique.
Oui, non, non, ça c'est certain. La diversité culturelle ou la diversité microbienne, c'est presque la même histoire. Et surtout, la radio, c'est un média de diffusion.
Partage.
De partage, un peu de subversion aussi, c'est bien. Ouais,
subversion. Un peu de subversion. Des éléments perturbateurs, mais...
La fermentation est subversif, en fait. Déjà, il comprend la mort, la décomposition et la doute, l'incertitude. C'est une partie noire, en fait, la fermentation. Donc, d'avoir ça dans les émissions, dans les communications de diffusion, pourquoi pas, voilà, on pourrait faire un petit peu de comparaison comme ça avec la fermentation.
Et en se rappelant que le but, c'est pas de faire des choses parfaites. Que justement, la fermentation nous rappelle ça, que les imperfections font partie du jeu. Et si on cherche la perfection, déjà on va s'ennuyer très vite si on arrive à l'atteindre. Et la vie n'aura plus aucun goût.
Et de voir même un résultat aujourd'hui qui n'est pas parfait, ça fait partie aussi d'accepter les invisibles. Parce que aujourd'hui il n'y a rien, mais ça peut être un germe de quelque chose pour plus tard.
Merci à François-Joseph Lapointe, à Crotum Konaté, à Marc-André Sellos, à Patrick Vega, au restaurant Lucas Carton à Paris et au chef Hugo Bourny, ainsi qu'à Raphaël et son Amazake épique. Merci également à Luna Kyung et Camille Auger, ainsi qu'à la boutique Fermentation Générale à Paris. Merci aussi à notre excellent stagiaire Adrien Clayette. Lecture, Lison Pinet. Prise de son Michael Simon, Olivier Leroux, Marc Garvenès et Timothée Hubert. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Annie Signoret. Archivina, Mylène Touchet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Joanna Bodo. Microbiote, tous en selle, épisode 3, Alimentation et fermentation générale. Un documentaire d'Élodie Maillot, réalisé par Véronique Samouloff. À suivre, Microbiote tous en selle, épisode 4, Homo microbiens.